Bonjour Monseigneur Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce sixième rendez-vous consécutif. Cette semaine, à l'approche de Noël, on va s'interroger sur la manière dont on peut préparer Noël dans notre monde, dans ce monde qui est très marqué par l'épidémie et par la crise sanitaire qui s'ensuit. Et dans notre département, dans notre diocèse, eh bien, on est concerné aussi, on est touché aussi par cette crise économique. Et c'est le point que vous vouliez aborder pour démarrer aujourd'hui, Monseigneur.
Oui, parce que évidemment, on sait très bien que, en particulier dans les stations de ski, comme à Lourdes, on aura beaucoup moins de monde que d'habitude. On ne peut pas utiliser les remontées mécaniques, et donc c'est sûr que pour les stations, c'est vraiment, ça sera vraiment un problème. Et moi, je voulais juste dire toute notre solidarité avec tous les acteurs du monde du ski, du monde des stations. J'ai mis un petit mot au maire de ces communes, pour leur dire combien on était avec eux et combien on sait que la période, même s'il y aura des vacanciers, même si on peut accueillir des touristes et qui sont toujours les bienvenus, ça on le sait, mais on sait très bien aussi que ça risque d'être une saison qui sera beaucoup plus difficile que les années précédentes. J'ai vu l'autre jour, en faisant mes courses chez Leclerc, qu'il y avait un petit collectif qui collectait justement pour les saisonniers de Lourdes, parce qu'eux aussi sont vraiment...
C'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les hôtels, etc.
Voilà, c'est ça, et qui parfois n'ont pas grand-chose pour vivre. Et donc, moi je me suis associé à la collecte, mais je trouve ça beau qu'il y ait des élans de solidarité. Et donc, nous, on le redit, on sent un petit peu impuissant, mais on redit, et quand je dis ça, c'est je le dis au nom des paroisses, au nom de toutes les communautés chrétiennes du diocèse, on est vraiment avec eux. Et tout ce qu'on pourrait faire, par exemple, vous voyez, cette collecte, ça a été tout simple, mais c'était une initiative, je crois, qui était la bienvenue. Ça montre aussi à ces personnes qu'on ne les oublie pas et qu'on est avec elles.
Oui, on prépare Noël. On ne peut pas préparer Noël sans penser à ces difficultés que rencontrent. Enfin, être vraiment chrétien dans notre monde, c'est aussi préparer Noël en pensant et en s'associant à la difficulté, à la détresse de ces gens-là.
Oui, exactement. Et puis aussi, Je voudrais dire une chose qu'on a un tout petit peu oublié, parce que dans le premier confinement, on applaudissait tout le personnel soignant. Et je voudrais leur dire aussi à eux combien on les remerciait pour le travail qu'ils font dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, dans nos EHPAD. Moi, évidemment, j'ai des nouvelles des aumôneries, donc la présence chrétienne.
Les personnes qui vont visiter les malades dans les hôpitaux.
Voilà, exactement. Les situations sont assez différentes parce qu'il y a des aumôneries où l'aumônier peut entrer, où les visiteurs peuvent entrer. Il y a des lieux où les familles peuvent visiter leurs parents. Et puis, il y en a d'autres où ça ne se fait pas. L'aumônier de Lourdes a été touché par le Covid. À Lannemezan, ils ont été très, très secoués par le décès d'un médecin, le docteur Borde. Voilà, et donc la clinique comme l'Ormeau est fermée aux visites de l'aumônerie. Donc on sait très bien, il y en a d'autres où c'est plus ouvert, où il peut y avoir des visites plus facilement. À les grottes, je vois que les visites ne sont pas du tout autorisées. Donc les situations sont difficiles, mais derrière ça, il y a des personnes. D'abord, il y a des personnes âgées ou il y a des personnes malades. Il y a un personnel soignant.
Qu'il faut rejoindre, malgré tout, qu'il faut trouver un moyen pour les rejoindre, soit par la prière, soit si on ne peut pas
exactement.
Les visiter.
Voilà, mais ça veut dire aussi que dans ces lieux-là, l'épidémie est là, elle est présente, et donc elle fait des dégâts. Mais on sait très bien comment ce sont les relations aussi qui sont touchées à partir du moment où les gens sont isolés. Donc si par hasard ils écoutent cette émission à la radio, eh bien qu'ils sachent que vraiment on est là avec eux, au moins par la radio on peut les rejoindre, qu'on les oublie pas, qu'on les porte et qu'on espère avec eux que tout ça sera bientôt derrière nous.
Alors voilà, c'est aussi une initiative du temps de l'Avent de prendre le temps d'être solidaire alors envers ces personnes qui souffrent parce que l'économie les impacte aussi. Et puis c'est les soignants et toutes les personnes qui sont mobilisées auprès de ceux qui sont seuls ou malades ou en détresse. C'est un... c'est une ligne à suivre pour ce temps de l'Avent. Et ça nous amène à parler justement de ce qu'est le temps de l'Avent dans notre vie de chrétien. C'est pas une période comme ça inventée pour faire joli, quoi. Ça a du sens. Et la liturgie également nous accompagne et nous rappelle chaque dimanche et chaque semaine de l'Avent que ce temps-là, il a du sens et que c'est une grâce en quelque sorte. Ce temps de l'Avent est une grâce pour se préparer à Noël.
Oui, le risque en ce moment, pendant ce confinement, c'est de se focaliser sur les questions de jauge, les questions de distance sanitaire. On peut être très bien pris par tous ces aspects techniques qui sont réels, hein, et puis qui sont handicapants, quoi. Quand dans une église, on ne peut pas faire rentrer tout le monde, c'est des questions qu'on se pose pour Noël. Mais je pense que il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est comment nous, chrétiens, nous vivons ce temps de l'Avent en profondeur pour nous préparer à Noël, et comment est-ce que nous laissons justement imprégner par cette liturgie. Et c'est très beau de voir l'espèce de pédagogie liturgique qu'il y a tout au long des semaines, que nous approfondissons pendant la messe, que nous approfondissons aussi pendant les temps de Lectio Divina qui sont proposés sur les réseaux sociaux le samedi après-midi. Je vois en particulier que le premier dimanche de l'Avent, c'est vraiment sur la question de la veille, veiller. Mmh. Hein. La veille, ça veut dire que comment est-ce que dans la nuit, je reste éveillé. Et si on compare cette pandémie, toute cette période que nous traversons à une nuit, comment est-ce que nous, chrétiens, nous restons éveillés? Nous sommes porteurs d'espérance, nous sommes porteurs d'une parole qui ouvre un avenir. Comment est-ce que nous essayons aussi de garder, mmh. Parce que veiller, c'est aussi garder la communion. Vous voyez, c'est garder l'espérance face à l'angoisse, à la peur, que tout ça ne se finisse pas, que bon, toutes les peurs que nous pouvons avoir. Mmh. C'est aussi garder la charité et la communion au milieu de... Et puis la tête froide, au milieu de toutes les analyses que nous entendons, au milieu de... on voit bien comment tout le monde a son avis sur tout. Tout le monde essaie de faire ce qu'il peut, mais ça va un peu dans tous les sens. Alors ça peut être pour la liturgie, la participation à la liturgie, mais ça peut être aussi tout simplement dans la vie courante. Est-ce qu'il faut que je porte un masque? Est-ce qu'il ne faut pas que je porte un masque? Est-ce qu'il faut qu'on soit 6 personnes? Est-ce qu'il faut qu'on soit 10? Ah, ce que fait l'État, c'est ridicule. Ah, maintenant, l'État ne nous protège pas assez. On voit bien comment ça, c'est facteur vraiment de division. Et puis aussi un peu de d'embouteillage à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que finalement, on arrive à se dire qu'on ne sait plus quoi penser.
Veiller sur... veiller, là, dans ce sens-là, c'est veiller sur les autres et c'est aussi veiller sur soi, sur son âme.
Oui, ça veut dire veiller à ce que je suis en train de dire, à ce que je suis en train de faire, à les paroles que je aux paroles que je profère. Je suis parfois très étonné. Parfois, je reçois des courriers aussi de gens qui m'expliquent ce qu'ils voudraient dire, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils voudraient penser. Alors ça c'est très français aussi, hein, parce qu'on rationalise beaucoup, puis donc il faut qu'on théorise sans se rendre compte qu'on est dans une période qu'on n'avait pas préparée, où on essaie de se débrouiller, où évidemment les circonstances de vie de l'un ne sont pas les circonstances de vie de l'autre, parce que soit par exemple si on a connu quelqu'un qui est mort récemment du Covid, ou bien qui est très touché, ou bien quelqu'un qui... une personne âgée qui est à la maison, on va être beaucoup plus prudent que si on est deux et qu'au fond on n'a pas été très, très touché et qu'on ne sort pas beaucoup. Et moi je dis faisons attention à la manière de regarder l'autre, de traiter l'autre, de parler avec l'autre. Soyons comment dirais-je, soyons miséricordieux aussi, parce que lorsqu'on est dans une situation qui est dont on ne voit pas l'issue, dans une situation qui est aussi angoissante que celle que nous vivons, eh bien, il y a une veille en disant « Moi, ma boussole, c'est l'Évangile. » Au fond, qu'est-ce que ferait Jésus s'il était à ma place? Comment il se comporterait? C'est un petit peu ça. Hein, comment, dans l'Esprit Saint, je garde la tête froide, je pense aux autres, au service de l'autre. Je trouve qu'en ce moment, il y a parfois beaucoup de condamnation. C'est très vite fait de condamner l'autre, de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Et je trouve qu'il y a une sorte de vigilance intérieure à avoir, qui est, qui est très en rapport avec la liturgie de la veille.
La liturgie du temps de l'Avent, elle nous met aussi en joie. Et ça aussi, c'est un élément important de cette période liturgique, c'est qu'on veille, mais on chemine aussi vers la joie.
Oui, alors il faut... Ça, c'est le troisième dimanche, hein, le dimanche de la joie. Et le deuxième dimanche, c'est un très beau dimanche, parce que celui qu'on a fêté dimanche dernier, c'est celui de la patience de Dieu. Dieu nous invite à la patience. Alors, on avait cette vision de Jean-Baptiste qui baptise sur le Jourdain, et puis les gens viennent confesser leurs péchés. Alors on voit très bien l'allusion massive qui arrive. On dit aux chrétiens, allez-vous confesser pour préparer Noël? Bon, donc on le fait avec beaucoup de foi. Mais la deuxième lecture, elle nous dit, Dieu patiente avec nous. Et la patience de Dieu, c'est un trait de sa miséricorde.
C'est beau ça, parce que nous-mêmes, nous nous mettons dans l'attente. Mais en fait, on ne se rappelle peut-être pas assez souvent que Dieu aussi fait preuve de patience à notre égard.
Voilà. L'attente des hommes, hein, cette sorte de soif de Dieu que nous avons dans l'âme, eh bien, elle a comme écho la patience de Dieu qui nous attend aussi. Parce que notre conversion, elle est lente. Parce que notre conversion, elle se fait par étapes. Et donc... lorsqu'on se confesse, évidemment, on gémit vers Dieu en disant, ben voilà, je suis pas à la hauteur. Et c'est beau d'avoir justement cette phrase de la deuxième lettre de Saint-Pierre qui dit « Dieu prend patience avec nous. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. » Ça veut dire qu'il n'est pas pressé. Hein, il nous attend. Oui, c'est bien que sur la route, la conversion, elle est compliquée, elle est difficile. Mais il est là. Et puis, il accompagne notre étape avec beaucoup de miséricorde. Et donc, je trouve ça beau aussi que... Nous ayons, vous voyez, cette thématique dans le deuxième dimanche de l'Avent, de la patience de Dieu, qui nous invite aussi à la patience envers nous-mêmes. Parce qu'au fond, il y a la patience de Dieu qui nous invite à la patience envers les autres, donc ça, c'est important. Mais je crois que la patience envers les autres, c'est d'abord une patience envers nous-mêmes. Je trouve que c'est un trait de la vie chrétienne, peut-être de la psychologie aussi, hein, mais en tout cas un trait de la vie chrétienne que, très souvent, Si nous voulons aimer l'autre, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire commence par t'aimer toi-même et ensuite tu auras la liberté intérieure pour aimer ton prochain. Et si tu es patient avec toi-même, tu auras la liberté intérieure pour patienter avec les autres. C'est-à-dire que tu seras plus patient avec les autres. Ce qui nous manque parfois, c'est une sorte de patience pour nous-mêmes, parce qu'on peut se décourager, parce qu'on peut baisser les bras. Alors on ne se décourage pas à 20 ans. Enfin, à 20 ans, on est plus autant dans l'élan, mais plus on vieillit, plus on peut avoir... La tentation de se dire « Oh, ce que j'ai fait, c'est nul, ce que j'ai fait, c'est rien, j'y arrive pas, ça fait des années que je me bats contre ce truc-là. Je même ce combat que je mène, même dans la vie sociale, dans la vie économique, même dans mon travail, par exemple, eh bien, moi, je dis d'abord, lorsque nous sommes pris par le découragement, eh bien, contemplons la patience de Dieu avec nous-mêmes. Et regardons-nous dans le regard de Dieu. »
Et là, la parole de Dieu peut nous aider vraiment précisément. C'est là que la parole de Dieu nous sauve.
Elle est faite pour ça. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur nous invitait là, dans ces lectures de dimanche dernier à cette patience envers nous-mêmes. Et donc, à regarder non pas le chemin qui n'a pas été parcouru, mais déjà le chemin que nous avons parcouru, et en nous disant, bah, le Seigneur nous réserve des surprises, le Seigneur nous ouvre une route. Mmh. Je crois que là aussi... vous voyez, dans le temps que nous vivons avec cette épidémie, on aimerait bien que tout soit réglé tout de suite, on aimerait bien que tout aille plus vite. On a vu les premiers Anglais, les premiers Britanniques se faire vacciner, alors quand est-ce que ça viendra chez nous, etc. Bon, voilà, et donc c'est comme si le Seigneur nous disait, bon, bah, fais un pas après l'autre et puis avance comme ça.
Alors, sur ce chemin, il y a le troisième dimanche de l'Avent.
Voilà.
Ce troisième dimanche, c'est le dimanche de la joie.
Voilà, le dimanche de Gaudete, parce que tout simplement, l'antienne, en latin, l'antienne de la messe, c'est Gaudete, et l'antienne de notre messe, c'est Soyez dans la joie. Ça veut dire Gaudete, ça veut dire Soyez dans la joie. Et donc, c'est une invitation à ne pas justement, vous voyez, non seulement à patienter, hein, mais à nous ouvrir à la joie. Et je trouve que c'est très important parce qu'à l'heure actuelle, on pourrait se dire, bon, bah, y a aucun motif de joie, y a aucun motif de nous réjouir. tout va mal.
Oui, les raisons que vous avez évoquées au début de l'entretien nous pousseraient à nous abaisser les bras.
Exactement. Alors que là, c'est beau aussi, la liturgie nous dit, mais non, ouvre ton cœur à la louange, ouvre ton cœur à l'action de grâce, vois aussi toutes les belles choses. Mm-hmm. Parce que là, la tentation, par contre, c'est de voir que ce qui va mal. Et la joie chrétienne, c'est justement de regarder vers Dieu, non seulement de trouver notre espérance et notre paix en lui, mais aussi de recevoir ce don propre de l'Esprit-Saint, ce fruit de l'Esprit-Saint, de la présence de l'Esprit, qu'est la joie. La joie, elle n'est pas seulement une émotion. Ah bah aujourd'hui, je suis dans la joie, et puis bah demain, je suis triste parce qu'il y a eu ça ou il y a eu autre chose. Mais la joie, c'est aussi une décision. Voilà ce que nous dit la liturgie, c'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir à la joie de Dieu, on peut dire au Seigneur, vous voyez, cette joie, nous en avons besoin les uns avec les autres. Et je pense qu'on a réellement, vous voyez, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas simplement positiver, on a réellement des motifs de s'inquiéter, ça c'est sûr, mais on a aussi dans notre vie des motifs de nous réjouir. Et le premier motif de nous réjouir, c'est que le Christ est ressuscité, que Dieu nous aime, qu'il nous veut vivants, qu'il nous ouvre un chemin de vie.
Ça, c'est aussi notre mission de chrétien, de dire, dans toute cette ténèbre, cette nuit, nous, on croit en une bonne nouvelle, on a la joie et on la partage.
Voilà, et cette joie, c'est le Seigneur vient, c'est-à-dire il est là dans nos vies, il nous accompagne, il ne nous abandonne pas, il nous regarde avec miséricorde et tendresse. Nous sommes aimés de Dieu. C'est ça, vraiment, le fond de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime, quelle que soit notre vie, quoi qu'on ait pu faire, même si on n'est pas content de nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, même si on est impatient avec soi-même, en fait, nous sommes aimés de Dieu. Et là, au cœur de cette nuit, je parle beaucoup de la nuit, parce qu'en ce moment, c'est une époque de nuit. Hein, on fête Noël, ça convient très bien en Occident à notre saison, hein, qui est justement les jours sont plus courts, la nuit tombe très tôt. On peut aussi un peu, je pense qu'il y a des gens qui sont tristes aussi parce qu'il fait froid et qu'il fait sombre.
Oui.
Bon, et du coup, au cœur de ce froid et de cette obscurité, nous avons ce dimanche de Gaudete, hein, ce dimanche de la joie, où les textes nous invitent à nous réjouir parce que le Seigneur est avec nous.
Et puis une autre bonne raison de se réjouir, c'est que sur ce chemin, on n'est pas seul. Il y a la Vierge Marie que nous avons célébrée ce 8 décembre dans son Immaculée Conception. Alors une grande fête dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes, évidemment. Elle est vraiment présente. Elle est vraiment présente dans ce temps de l'Avent, du début jusqu'à la fin. Évidemment, c'est à travers elle aussi qu'on va contempler Jésus dans la crèche.
Oui, Marie est là. Alors, on l'a fêtée hier, le 8 décembre. En lisant l'évangile de l'Annonciation, qu'on relira justement le quatrième dimanche de l'Avent, j'ai remarqué hier que dans le livre de la Genèse, on a lu, c'est juste après le premier péché, hein, donc on est au chapitre 3 de la Genèse et Adam et Ève se cachent parce qu'ils ont peur de Dieu. Hein, ça c'est le problème, c'est que quand on veut s'éloigner de Dieu, ensuite on a peur de lui. Hein, la peur de Dieu, elle est vraiment une marque du péché, c'est-à-dire on n'est plus en communion avec lui et du coup on le craint. Alors il se cache et puis Dieu, comment se termine ce passage? Eh bien Dieu, Dieu donne une perspective, il donne une perspective à l'homme et l'homme appelle sa femme Ève, femme, mère. Et parce qu'elle est la mère de tous les vivants, nous dit. C'est-à-dire qu'il y a le péché, il y a l'éloignement de Dieu, et pourtant, Dieu ouvre une perspective. Il continue à donner la vie. Et Ève devient mère de tous les vivants. Donc, il nous donne une mère pour continuer la route. Il nous donne une mère pour... on s'est éloigné de Dieu, il y a le péché dans nos vies, très bien, mais Dieu ne nous anéantit pas. Il aurait pu nous anéantir. Il continue de nous créer, il continue de nous donner la vie. Et ce qu'il fait dans l'ordre de la nature, en nous donnant la vie à travers Ève, eh bien, il le fait aussi dans l'ordre de la grâce, en nous donnant la vie à travers la mission de Marie. Et de ce point de vue-là, Marie aussi est notre mère de tous les vivants dans le Christ, parce que eh bien, elle nous engendre, elle nous porte aussi dans notre relation avec le Seigneur.
Alors, on voit bien donc la veille, la patience, la joie, Marie. On voit bien comme jusqu'à Noël, on monte en puissance, si vous me permettez l'expression, jusqu'à arriver devant cette crèche, devant ce Jésus qui va se faire si pauvre, si petit, si humble. On monte en puissance et puis on va arriver devant cette crèche pauvre et misérable. Ça aussi, ça dit quelque chose à notre monde.
Ben oui, alors du coup, quand on pense à Marie, c'est à peu près le moment où on fait la crèche, hein, donc on la met. Moi, j'ai une crèche, hein, dans mon oratoire, et alors j'ai deux petites statuettes de Marie. Hein, j'en ai une à genoux. Alors c'est Marie qui a accouché, donc qui est à genoux devant le Sauveur, mais j'ai une Marie de l'avant, hein, une Marie qui est enceinte. Et donc ça, c'est beau aussi pendant le temps de l'Avent, d'avoir une Marie debout, enceinte, hein, Marie qui est prête, qui porte le Sauveur dans son sein. Ça, c'est très beau. Hein. Alors, donc, on la met dans la crèche. Je pense que voilà, les gens sont en train de faire les crèches, là. Et je trouve très beau de contempler, parce que c'est la crèche, hein, qui a été inventée, si je puis dire, par Saint François d'Assise. Oui. C'est cette crèche toute simple dans les maisons. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour faire une crèche, au fond. Il y a besoin de quelques personnages. Alors ensuite, on peut faire des crèches magnifiques, oui. Un peu de paille, un peu de mousse, quelques pierres. Enfin, chacun peut faire son petit décor et qui nous remet justement dans la vérité de la fête que nous allons célébrer, ce que vous disiez tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai noté, Anne-Rose, que vous pourriez prêcher à la radio, hein, parce que je vois que vous aviez des, vous avez des mots pour décrire le mystère de Noël, la fragilité, la pauvreté de Jésus, qui vient nous rejoindre sur notre terre. Hein, une terre qui n'est pas encombrée d'un fatras de trucs, parce qu'il se retrouve vraiment sur la terre des hommes, comme un enfant. Je suppose qu'on en reparlera à Noël. Voilà, une de mes grandes joies, voyez-vous, c'est d'avoir appris hier que je pourrais très vraisemblablement aller célébrer à la prison de Lannemezan, comme je le fais.
Comme vous faites chaque année, oui.
Alors chaque année, j'y vais avec des visiteurs. Il y a la Croix-Rouge qui vient, il y a des visiteurs du diocèse, il y a des religieuses, il y a des... Bon, je crois que je vais y aller tout seul, avec l'équipe d'aumônerie. Hein, mais moi, je suis content parce que ça fait partie de... chaque année, de mon mystère de Noël, la manière d'aller célébrer la messe dans cette prison.
Comment reçoivent-ils ce moment, cette fête, votre présence, votre venue avec la célébration de la fête de Noël?
Ben d'abord, je crois que c'est un rendez-vous à Noël. Hein, je crois que c'est un rendez-vous important. Il y a assez peu de détenus par rapport au nombre de détenus. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être 10% quoi, qui viennent. Peut-être un peu plus. Ils sont là. Je dois dire que voilà, c'est un moment tout simple aussi. Hein. On est vraiment dans la crèche de Bethléem parce qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas d'église. On transforme une salle des fêtes en chapelle. Et je trouve que voilà, on vit ce moment-là, ce moment de grâce avec des gens qui sont enfermés. Moi, je ne sais jamais hein, ce qu'ils ont fait. Là n'est pas la question. Mais c'est comme le Seigneur qui nous visite, hein, chacun dans nos maisons. Et l'évêque, à ce moment-là, il est juste un signe que dehors, on ne les oublie pas.
Et que Dieu est venu pour eux, précisément.
Que Dieu est venu pour eux et que l'Église est là présente et les rejoint. Mmh. Et donc, il y a ceux qui... Bon, alors, on partage aussi un goûter. Voilà, il y a un petit moment après la messe hein, de fraternité. Hein, et je suis touché parce que souvent, les visiteurs qui viennent avec nous amènent des fleurs. Voilà. Et il y en a qui ramènent... Alors, il y a des gâteaux, enfin des pâtisseries, quoi. Bon. Mais souvent, il y en a qui prennent des fleurs pour aller dans leur cellule. Et je me dis, bah, tiens, au fond, là, vraiment, on a touché la grâce de Noël.
Comme des enfants, en fait. Ils sont, finalement, c'est ça aussi que Dieu nous attend de nous à Noël, de nous remettre à chaque fois comme un enfant, d'arriver devant la crèche comme un enfant et de le contempler comme un enfant le fait, voilà. Simplement.
Avec toutes nos fragilités, avec tout ce qu'il y a de pauvre en nous. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est une grâce. Et ce qui est beau, c'est qu'ensuite, ben, je vais à la cathédrale. et que bah, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment bon, voilà, l'Église en fait, les gens qui sont libres. Mais je trouve que il y aura aussi des visites à faire hein, par les aumôneries d'hôpitaux, dans les cliniques, maisons de retraite, hôpitaux. Ce sera aussi notre manière de vivre Noël. Et je trouve que il faut se souvenir et que les auditeurs le sachent, hein, c'est que au moment de Noël, nous aimons nous retrouver en famille, mais nous n'oublions pas aussi ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui sont loin de leur famille, ceux qui sont empêchés de les voir.
Cette année encore plus que d'habitude.
Cette année encore plus que d'habitude, oui.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet. Alors, pour que tous les auditeurs puissent eh bien, cheminer dans ce temps de l'Avent, on rappelle le rendez-vous, 4 samedis pour Dieu. Le prochain rendez-vous, c'est donc ce samedi à 17h30. Rendez-vous sur la page Facebook du diocèse ou alors sur le site du diocèse, catholique65.fr. Ce samedi, le rendez-vous sera avec les jeunes de la colloque de la Maison Saint-Paul et vous-même, Mgr Brouvet.
Voilà, les jeunes professionnels. Et certains de la coloc, oui. La colocation, pour ceux qui ne savent pas, c'est des étudiants qui vivent ensemble dans un étage de la Maison Saint-Paul. Et puis au-dessus, au deuxième étage, il y a donc des jeunes professionnels qui travaillent, mais qui habitent là. Et je viendrai les rejoindre pour introduire le temps de lectio, hein, puisque l'idée, ce n'est pas simplement d'écouter une prédication, mais c'est dans la prière d'entendre une introduction et ensuite de reprendre pour soi-même, pendant le week-end, de reprendre la prière, enfin le texte biblique qui a été introduit, hein, pour en faire une méditation plus personnelle, ou bien communautaire, en famille, par exemple, on peut reprendre le texte et puis... essayer de voir comment chacun a entendu la parole de Dieu et la reçoit pour lui-même. Un peu comme on le disait tout à l'heure là, au début de l'interview.
Voilà, donc un rendez-vous priant, mais aussi joyeux.
Joyeux, parce que c'est justement le dimanche de la joie.
Hein. Et donc à suivre en direct sur la page Facebook du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci Anne-Rose.